Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ben c'est fait. OK, la loi qui légalise le pot a été adoptée par la Chambre des communes. Puis là, à partir d'une date là qui reste à déterminer, mais quelque part en septembre, on va pouvoir en acheter puis en posséder, puis ça va être tout à fait légal. On ne violera aucune loi, on va pouvoir le faire. Puis moi, je veux savoir comment ça va marcher. Et je me tourne vers celle qui a fait adopter la loi à Québec et qui connaît bien la loi d'Ottawa, Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, protection de la jeunesse, santé publique, saines habitudes de vie. Bonjour, Madame la ministre.
Bonjour, M. Drainville.
Alors, allons-y très concrètement. Les employeurs, est-ce que, à partir du moment où c'est légal, est-ce que les employeurs peuvent quand même demander à leurs employés de respecter, je sais pas moi, une politique, des standards à partir desquels tu peux gérer ton personnel si tu te rends compte qu'il arrive trop buzzé au travail?
Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, tous les employeurs peuvent se faire une politique de conduite, tant pour l'employeur que pour l'employé, au travail. Et c'est comme pour la boisson. Là. Si vous arrivez en état d'ébriété, vous n'êtes pas supposé de vous présenter sur les lieux de travail à manger de même. Hein? On va se dire le vrai mot québécois. Là.
Oui.
Mais c'est la même affaire. Si vous arrivez en état de faculté affaiblie, j'allais dire gelé,
oui.
Ben c'est pas mieux. Bon, mais ceci étant dit, il n'y aura pas de test de dépistage. Alors, si votre comportement ne laisse pas voir que vous êtes dans cet état-là, puis peut-être que ça peut être de l'huile de cannabis que vous allez avoir utilisé pour un mal de dos, ben là, l'employeur n'a pas de raison de croire que vous n'êtes pas en mesure de faire votre travail. Vous ne mettez pas la vie des autres en danger. Il y a tout cet élément-là là, qui fait partie de la politique. C'est tout
mais est-ce que tu peux
en sorte que tu mettes ta sécurité en danger puis celle des autres confrères au travail.
OK, mais est-ce que tu peux, comme employeur, imposer un code de conduite qui inclut, dans certains cas, un test pour savoir si oui ou non tu en as consommé? Est-ce que tu as le droit, comme employeur, d'instituer un test comme celui-là à partir du moment où c'est légal?
Bien là, on est rendu plutôt dans le juridique. Honnêtement, ce que j'ai entendu en commission parlementaire, tant des employeurs que de la partie employée et ou syndicale, c'est que les gens, plutôt, ce qu'ils préfèrent, c'est avoir des modes d'intervention qui leur permettent d'accompagner leurs employés vers des traitements qui leur permettent de bien fonctionner avec les autres. C'est pas un système punitif qu'ils veulent, les employeurs. Ce qu'ils veulent, c'est des employés en bon état pour travailler, qui mettent pas leur propre sécurité en danger puis celle des autres.
OK. Mais dans le cas de l'alcool, on est capable de calculer le niveau d'alcool qu'on a dans le corps. À ma connaissance, corrige-moi si je me trompe, Lucie Charlebois, mais à ma connaissance, la technologie nous permettant de calculer, de quantifier le niveau de THC que tu as dans le système n'existe toujours pas.
Non, tout à fait. On attend toujours l'appareil homologué du gouvernement fédéral. Ça va être homologué par ce qu'on m'a dit, justice ou sécurité fédérale. Puis on attend cet appareil-là, nous autres, pour justement le zéro tolérance pour la conduite. Mais il y a quand même des tests de comportement que les gens peuvent avoir, là.
OK, mais à ce moment-là, c'est un peu subjectif. On te fait passer un test de comportement. On peut penser que tu as tel ou tel comportement parce que tu consommes du pot ou du hash ou peu importe, mais on n'a pas moyen de le mesurer très exactement, là.
Non, on n'a pas ces appareils-là. Puis de toute façon, moi, ce que j'ai entendu, ce que les gens souhaitent, c'est que les gens se présentent au travail de façon convenable. Puis s'il y a quelqu'un qui a un problème de dépendance, il souhaite l'accompagner plutôt que avoir un système punitif pour l'aider. Parce que souvent, c'est des bons employés. Là. Fait que ce qu'ils veulent juste, les employeurs, c'est les aider à pouvoir reprendre leur vie en main.
OK. Tu as fait référence sécurité routière.
Mm-hmm.
Tolérance zéro, c'est bien beau, tolérance zéro, mais si les policiers sont pas capables de mesurer le niveau de substance THC que tu as dans le sang, à quoi ça sert d'avoir une politique de tolérance zéro? Comment la mettre en œuvre?
Très bonne question. En ce moment, il y a déjà des gens qui consomment du cannabis et nos policiers sont capables, à partir de certains tests de comportement, de voir quand il y a des facultés affaiblies, même avant de passer un test pour
C'est la salive, hein? C'est la salive,
ouais,
non?
Ben la salive, c'est pour la drogue, mais pour la boisson, l'hypersomètre, on est capable, par des tests de comportement, de détecter des facultés affaiblies, tant d'alcool et de drogue, et ou concomitant. Parce que des fois, ça peut être l'alcool, des fois, ça peut être la drogue, des fois, ça peut être les deux.
D'accord.
Alors, il y a des tests de comportementaux qu'ils sont capables de faire, et dès qu'ils ont un doute raisonnable de penser que la personne n'est pas en état de conduire, il va aller vers un agent évaluateur au poste et là, ils vont évaluer. Puis on est capable d'être assez précis pour conduite avec faculté affaiblie. Mais c'est sûr que ce ne sera pas le zéro tolérance proprement dit parce qu'on n'a pas les appareils.
OK, mais l'appareil dont vous nous parlez, là, c'est-à-dire le policier t'arrête, il pense que tu es sous l'effet de la drogue. Il peut t'amener au poste. Et là, il y a certains postes qui vont être équipés d'une machine qui permet de détecter la présence.
Non, quand on aura l'appareil, ils vont l'avoir dans les autos, là.
OK, mais au poste, qu'est-ce qu'ils ont présentement?
En attendant, là, c'est vraiment les agents évaluateurs qui confirment avec d'autres tests de comportementaux, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'entièreté de la formation. À partir du moment où le policier sur la route a des doutes raisonnables de croire qu'il l'amène là, puis l'autre évalue vraiment ses capacités avec les tests comportementaux.
Mais il n'y a pas de machine comme telle qui existe,
non.
comme on en a une pour l'ivresse-mètre, comme on en a une pour
non.
l'alcool.
Tout à fait. Il n'y en a pas en ce moment. C'est pour ça qu'on dit faculté affaiblie et non le zéro tolérance.
Mais on s'entend-tu, Lucie Charlebois, qu'il y en a qui vont contester ça, là, qui vont dire c'est pas parce que l'agent sur la route puis l'agent évaluateur a pensé que j'avais consommé du pot que j'en avais vraiment consommé.
Oui, mais c'est déjà le cas. C'est déjà en place. Il y a déjà, même si c'est pas légal... Il y a du monde qui fume du pot en ce moment. Hein,
ben oui, je sais.
Qui conduisent. Ouais. Alors, c'est déjà en place. Puis, des gens, même avec l'appareil pour détecter le niveau d'alcool, là, il y en a qui contestent déjà. Puis, bon, ça, c'est le processus juridique. On est dans une société de droit. Les gens ont le droit de contester.
OK. Parlons des cégeps et des universités.
Oui.
Rappelez-nous, là, dans les cégeps, est-ce que ça va être possible pour un jeune ou dans une université, est-ce que ça va être possible pour un jeune de fumer du pot?
Non. Sur tout le territoire des établissements, que ce soit primaire, secondaire, collégial, universitaire, zéro fumée de cannabis.
Ça, c'est dans la loi que vous avez fait adopter comme ministre?
Au Québec, oui.
OK, donc il n'y a aucune exception à cette règle-là. Dès que tu es sur un terrain scolaire, peu importe le niveau, c'est zéro, aucune consommation, aucune possession, à rien pantoute.
Bien, la possession va être... toléré avec les quantités au niveau universitaire et ou dans les résidences. Vous pouvez aller à l'université et avoir du cannabis dans vos poches, mais vous ne pourrez pas le consommer sur place. Exemple, rendu à l'université, tu es un adulte, tu peux être passé à la boutique de la Société québécoise du cannabis à l'heure du dîner, puis tu t'en viens faire tes cours l'après-midi parce que tu sais qu'en soirée, tu vas en quelque part, puis bon. Pour toutes sortes de raisons, tu l'as avec toi, mais tu ne pourras pas le consommer sur le site.
OK, il arrive quoi si tu le consommes? Qui va t'arrêter?
Bien, dans les universités, ils ont déjà des... je ne sais pas comment...
Du service de sécurité. Oui.
Il va déjà s'assurer de ça. Mais dans l'ensemble des services, au cégep aussi, mais dans l'ensemble des services, peu importe où il y aura une interdiction, il y a les corps policiers qui peuvent interagir et il y aura nos inspecteurs du gouvernement en plus.
OK, mais le service de sécurité d'une université, par exemple, te voit en train de fumer un joint dans le parc.
Exact.
OK, c'est un espace vert, là, mettons. Le service de sécurité, il va pouvoir faire quoi? Là? Il va pouvoir te donner une amende? Il va pouvoir t'expulser
va pouvoir
du campus?
Ils vont pouvoir s'organiser pour que la personne ait sa contravention, mais aussi, il va y avoir sûrement des sanctions au niveau universitaire, là, parce qu'ils ont un code de conduite là, dans les universités, dans les collèges, etc.
Donc, les universités vont prendre la loi que vous avez faite voter, puis vont, dans le fond, tirer de cette loi-là qui l'interdit le code de conduite qu'ils vont appliquer à l'ensemble de l'institution.
Puis on répond à leurs demandes.
Oui. OK. Puis autour des institutions là, collégiales, universitaires, est-ce qu'il va y avoir des périmètres là, à l'intérieur desquels il ne peut pas y avoir de Société québécoise du cannabis?
Bon, autour de tout ce qui est scolaire, primaire, secondaire, puis honnêtement, j'ai une petite faille à mon cerveau, là, je veux pas vous certifier ça, faudrait que je revérifie au niveau des collèges et universités, mais de mémoire, ils sont inclus aussi, mais il faudrait qu'au niveau universitaire, il faudrait que je vérifie, mais c'est 250 mètres de tout établissement d'enseignement, primaire, secondaire. Il faudrait que, comme je vous dis, pour le poste secondaire, que j'aille faire une vérification. J'ai une petite faille, là, j'ai oublié.
Okay.
Mais pour ça, c'est pour l'ensemble du Québec, c'est 250 mètres des institutions, sauf pour Montréal, qui a demandé un traitement particulier parce que la densité oblige. d'aller à 150 mètres. Ils ont eu des discussions avec la Société des alcools du Québec avant la constitution de la Société québécoise du cannabis pour s'assurer qu'ils puissent mettre les points de vente là où ils en vendent déjà beaucoup par le crime organisé.
OK, pour les tasser, dans le fond.
Oui, ben dans le fond, c'est comme... c'est ça qu'on cherche à enrayer le marché illégal. Alors, on va s'installer là où c'est permis.
Alors, est-ce que les sociétés québécoises du cannabis vont être ouvertes pour le mois de septembre pour que, une fois que c'est légal, les gens qui nous écoutent et qui souhaitent en consommer puissent aller en acheter?
Bien, moi, je ne sais pas la date exacte. Je sais que M. Trudeau est supposé de l'annoncer cet après-midi. Alors, à partir du moment où ce sera légal, nous autres, on est déjà, vous le savez, la Société québécoise du cannabis est déjà, la SAC, là, au début, était déjà en discussion avec les municipalités pour voir où ils allaient poster leur point de vente. On aura notre site en ligne. On a prévu la formation pour ceux qui seront dans les boutiques. Déjà, tout est en marche. On est déjà en plein recrutement. La formation va être donnée. Oui, on va être prêt.
Il va y avoir des boutiques qui vont être ouvertes en septembre. Ou à tout le moins, s'ils ne sont pas ouvertes, ça va être possible de l'acheter en ligne.
Bien, moi, je ne vous dis pas de date parce que je ne sais pas la date que M. Trudeau aura choisi. À partir du moment où il aura choisi sa date, oui, on va être prêt. C'est ça qu'on a toujours visé. C'est pour ça que j'étais tellement inquiète à un moment donné quand j'ai vu que ça retardait un peu notre étude.
D'accord.
Je me disais, il faut qu'on ait notre encadrement au Québec, sinon c'est la loi fédérale qui se prévaut. Les fournisseurs d'ailleurs partout auraient pu vendre le cannabis directement ici sans vérification. Alors, je voulais pas ça. Je voulais qu'on puisse contrôler notre âge. Toute notre réglementation qui correspond aux attentes des Québécois, bref.
Si on veut cultiver un plant ou deux sur notre terrain, votre loi québécoise l'interdit, mais la loi fédérale le permet. Fait que mettons que les gens qui nous écoutent, là, ils décident de se faire pousser un plant ou deux, là, qu'est-ce qui va leur arriver?
Sanction pénale. C'est zéro plan au Québec. D'ailleurs, en conférence de presse un peu plus tôt ce matin, la ministre de la Justice fédérale et la ministre de la Santé ont clairement dit qu'il n'y avait pas l'intention de contester les lois québécoises et les lois du Manitoba, parce qu'on est les deux provinces qui ont dit zéro plan. Ceci étant dit, les citoyens pourront peut-être contester pour ceux qui veulent le faire, mais je rappelle qu'il y a 15% de la population qui consomme du cannabis fumé. Dans ce 15%-là, c'est pas tout le monde qui veut avoir du cannabis qui vont se planter à la maison. Et on a choisi ces raisons-là parce que les Québécois nous ont demandé ça pour limiter les possibilités de surconsommation. Si tu as trop de plants pour ce que tu as besoin, ou bien tu vas en consommer plus, ou bien tu vas créer un autre marché illicite. Pour limiter les craintes quant à la banalisation, mais aussi l'accessibilité aux produits par des adolescents. Les craintes aussi pour les dommages aux édifices. En tout cas, bref, on a répondu aux préoccupations des municipalités, des policiers, des Québécois et la santé publique.
En tout cas, on va voir comment tout ça va se mettre en place. Lucie Charlebois, ministre responsable donc de ce dossier de la légalisation du pot au Québec. Merci, Madame la ministre.
Merci, M. Drainville. Bonne journée.
Vous aussi.